Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure des 80 ans de la Libération, je vous propose aujourd'hui de découvrir deux héroïnes de la Résistance, Claude Cahun et Suzanne Malherbe, deux Françaises, deux artistes dont les actions pourtant inédites et uniques sont restées dans l'ombre. Il faut dire qu'elles agissaient sur l'île de Jersey et qu'elles font partie de toutes ces femmes qui ont été oubliées par l'histoire. Heureusement, Emmanuel Hutin vient de leur consacrer un roman remarquable, documenté et sensible, qui retrace leur incroyable courage et audace, comme en témoigne le titre « Les Francs-Tireuses » aux éditions Anne Carrière. J'ai rencontré l'autrice au festival Atlantide « Les mots du monde » à Nantes, une ville très symbolique, comme vous allez le comprendre tout de suite. Bonjour Emmanuel Hutin.
Bonjour Catherine.
Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler de ce roman Les Francs-Tireuses parce que nous sommes ici à Nantes et il se trouve que c'est la ville de vos deux protagonistes, Claude Cahun, qui est un nom d'artiste, et Suzanne Malherbe, dont on va parler tout au long de cet entretien avec vous. Est-ce que vous aussi vous êtes un peu émue d'être ici à Nantes pour parler de ce livre ?
Oui, je suis émue et je l'étais tout à l'heure en arrivant sur le lieu unique parce que je suis passée devant une petite ruelle qui est à 300 mètres d'ici et qui s'appelle la rue Malherbe. Et voilà, j'ai l'impression de revenir sur les traces de Suzanne Malherbe, sur les traces de Claude Cahun, de revenir là où elles ont passé les 20-25 premières années de leur vie et de revenir dans un lieu où elles sont peut-être un peu plus connues que dans le reste de la France, connues en tout cas en tant qu'artistes, connues en tant qu'enfants du pays, mais dont la résistance reste complètement inconnue pour les gens de Nantes. Et donc ça me fait très plaisir d'arriver voilà, dans cet espace où les gens sont quand même familiers avec Claude Cahun, avec Suzanne Malherbe, mais d'arriver avec cet effet de nouveauté et de pouvoir leur montrer une autre facette de cet artiste.
Beaucoup ont oublié Claude Cahun. Vous-même, je crois, vous l'avez découverte assez récemment à la faveur d'une photographie, puisque, en effet, c'était une artiste visuelle, écrivaine, surréaliste, en tout cas très imprégnée par ce mouvement. Et donc, vous-même, il y a quelques années, vous découvrez cette photo et vous ne savez pas encore qui est Claude Cahun.
Oui, effectivement, c'est dans un petit couloir dans les collections permanentes du Centre Pompidou où une conférencière sur les artistes femmes nous amène, en fait, le groupe et moi, devant cet autoportrait qui date de 1929. Et je suis vraiment en état de choc à ce moment-là en découvrant le portrait, qui est une petite photo parce que Claude a très peu montré son travail, donc elle n'a pas fait de grand tirage. Un autoportrait au miroir, elle a une veste à damier qu'on imagine peut-être dans des couleurs, en tout cas un fond blanc et un fond plus coloré, avec le col relevé, comme pourrait faire un homme. Elle a les cheveux rasés, certainement recouverts soit de rose, soit d'argent. C'est ce qu'elle écrit en tout cas dans ses textes, comme c'est une photo noir et blanc, on n'a pas la couleur, mais donc crâne rasé ou avec un tout petit peu de cheveux enduits comme ça d'une couleur. Et elle a ce regard vers la caméra et en même temps ce reflet, et avec un regard en fait qui nous interroge, qui nous montre autant qu'il dissimule en fait. C'est-à-dire que Claude à la fois s'expose et en s'exposant avec ce double visage, avec ce reflet, elle dit « je suis ça et je suis tellement d'autres aussi ». Et en fait, il y a quelque chose de vertigineux en fait. C'est-à-dire que voir cette photo, pour moi, c'est plonger dans l'univers de Claude Cahun. C'est ressentir tout ça de manière inconsciente et c'est avoir envie de voir les autres autoportraits, c'est avoir envie de lire ses écrits et de comprendre l'infinie liberté et intelligence et audace et fantaisie et humour de cette femme.
Et donc, à partir de ce premier choc visuel, Emmanuel Hutin, vous vous documentez et vous découvrez donc l'existence de son travail et puis son compagnonnage avec Suzanne Malherbe, puisque toutes les deux, elles vivent en couple, elles se connaissent depuis l'adolescence, elles vivent à Paris dans des bonnes circonstances, parce qu'entre les deux guerres, il faut rappeler qu'il y avait un souffle de liberté pour les artistes, pour les homosexuels. Et puis arrive la guerre, et votre roman, Les Francs-Tireuses, s'ouvre donc sur l'île de Jersey, cette une de ces îles anglo-normandes. Qu'est-ce qu'elles font là exactement ?
Elles connaissent bien Jersey parce qu'effectivement, en ayant grandi à Nantes, elles avaient l'habitude de passer des vacances sur l'île de Jersey. Quand elles s'installent à Paris en 1922, elles sont effectivement dans toute l'avant-garde artistique du moment, donc avec les surréalistes, qu'elles fréquentent tout en étant très à part et très, très indépendantes. Mais en tout cas, elles sont très actives à partir de 1934 dans la lutte antifasciste des artistes de cette époque. Et en 1937, voyant ce qui se passe en Allemagne avec la montée du fascisme, voyant à quel point elles ont été engagées, il ne faut pas oublier que Claude est d'origine juive, qu'elles sont toutes les deux représentantes de l'art dégénéré, qu'elles ont milité en fait contre le fascisme, qu'elles sont homosexuelles, elles cochent beaucoup de cases qui feraient que c'est compliqué pour elles en fait de rester à Paris. Et donc elles décident en fait de s'installer à Jersey en 1938. Claude écrira « On m'a reproché de fuir », alors qu'en fait, elle a été plus active que beaucoup en fait en étant sur l'île. Donc elle se retrouve sur l'île de Jersey, elle achète une maison qui est dans un petit village, qui est en face de l'hôtel où elles avaient l'habitude de passer leurs vacances. Une maison tout en granit, une ferme dans le roc, comme elle dit. Et Jersey, en fait, en juillet, enfin vraiment fin juin, juillet 1940, les Allemands vont débarquer.
C'est une île qui a été ouverte, occupée et qui, d'une certaine façon, a été abandonnée par la Grande-Bretagne, où les habitants de l'île se sont retrouvés totalement à la merci de l'occupant et de l'ennemi.
Oui, c'est vrai que c'est une situation assez particulière en fait dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque le fait que ce soit une île, c'est aussi un espace huis clos, et que du coup la population et le gouvernement local s'est retrouvé dans une collaboration forcée. Et il y avait très peu de résistance, parce que de fait, je veux dire, s'il y avait eu un attentat contre un officier allemand, de fait, le responsable était forcément sur l'île, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de quitter l'île. Donc c'est ce qui a fait aussi qu'il y avait assez peu de résistance. En tout cas, il n'y a quasiment pas eu de résistance armée. Il y a eu beaucoup de collaborations avec plus ou moins de zèle. Donc ça, effectivement, les historiens, quand ils parlent de l'occupation à Jersey, on parle de collaboration, mais avec beaucoup plus de subtilité que la collaboration française, parce qu'il y avait moins de choix, moins d'options, et qu'il y en a eu qui ont collaboré avec beaucoup de zèle, d'autres qui ont un petit peu moins. Et c'est ce qui fait que Claude Quin a appelé ceux qui collaboraient avec du zèle les autruches fabuleuses, qui étaient prêtes à tout pour s'engraisser et profiter de la situation. Mais voilà, donc c'est vrai que Jersey est très, très à part dans l'histoire de la Seconde Guerre, avec cette occupation qui a duré longtemps et cette espèce de huis clos qui a duré de juin 40 au 8 mai 1945, parce que quand les côtes françaises ont été libérées, les îles anglo-normandes n'ont pas été touchées. Et il n'y a pas eu un seul combat à Jersey. Elles ont été oubliées en quelque sorte de la libération. Alors certains disaient que Churchill avait fait exprès pour punir les locaux d'avoir collaboré, mais bon, je ne crois pas tellement à cette version, je pense qu'on n'en était pas là à ce stade.
10 000 soldats allemands, je crois, sont à Jersey pendant l'occupation, et c'est donc dans ce contexte géopolitique très particulier que Claude Quin et Suzanne Malherbe vont commencer à faire de la résistance. Mais alors, une résistance très particulière. D'abord parce que c'est une résistance audacieuse, et puis une résistance avec des tout petits gestes au début, mais qui finalement sont très importants. En bref, elles vont écrire, taper des tracts qu'elles vont distribuer dans l'île, et on va le voir avec vous, Emmanuel Hutin, dans des lieux tout à fait improbables. Et ce sont des petits tracts, non pas pour se rebeller contre l'ennemi, mais bien au contraire pour démobiliser le moral des soldats allemands. Racontez-nous.
Oui, c'est toute l'originalité de leur résistance, et d'après les échanges que j'ai eus avec des historiens spécialistes du sujet, on n'a pas d'équivalent autre dans l'histoire de la résistance de la Seconde Guerre mondiale que leur résistance à elle, où toute l'originalité, ça a été effectivement de se faire passer pour des soldats allemands. Donc des tracts, des journaux clandestins, il y en a eu, mais là, elles se sont fait passer en fait pour des soldats allemands. C'était un peu l'ultime rôle de Claude Quin qui avait passé sa vie en fait à endosser un certain nombre nombre d'identités, à pouvoir explorer toutes les identités de son être, est devenu ce qu'elle a appelé le soldat sans nom. Et le soldat sans nom, c'est cette voix insurrectionnelle qui, au cœur de l'armée allemande, essayait de dire à tous les soldats allemands de les encourager à déposer les armes, à se retourner contre leurs officiers, à effectivement, comme vous dites, miner leur morale, c'est-à-dire les démobiliser, quoi, les sortir du fanatisme, parce que vraiment la propagande nazie était de l'ordre du fanatisme. Or, elle vient saisir chaque soldat individuellement. Et elle va essayer d'éveiller, en fait, de s'adresser non pas à un collectif, mais à chaque individu, et de réveiller en chacun une conscience, une envie de fraternité. Encore une fois, la fraternité, c'était complètement absent du nazisme, puisque le nazisme disait que tout ce qui a figure humaine n'est pas homme. Donc en fait, elle vient à l'encontre de tous ces messages en essayant de réveiller ça dans chaque soldat, et donc en écrivant en allemand grâce à Suzanne, qui avait été, parce que après, voilà, il y a le concret, quoi. Comment, quand on a cette belle idée, comment concrètement on la réalise? Et en fait, Suzanne, ayant été élevée par une gouvernante allemande, maîtrisait parfaitement la langue. Et donc, Claude écrivait les textes que Suzanne traduisait. Tout ça a été tapé sur une machine à écrire. Elles estiment qu'elles auraient distribué 6000 documents en 4 ans, à deux.
Donc en lettres gothiques, avec les couleurs nazies, et elles se font passer, voilà, pour des soldats allemands qui d'un seul coup ont la conscience de l'absurdité de cette guerre, de façon à ce que l'idée circule. Et donc sur toute l'île, elles prennent le bus, elles marchent, elles ont toujours des tracts dans leur poche, elles en distribuent dans des boîtes aux lettres, dans un casino aussi, il y a même une banderole dans une église qu'elles installent. Elles se mettent en danger. C'est incroyable que pendant 4 ans, elles aient pu réussir en effet à distribuer autant de tracts subversifs.
Oui, et c'est tellement incroyable que Claude, parfois, ça la désespérait. En fait, elle écrit que vraiment, ça devait n'avoir aucun effet si elle pouvait continuer à le faire. Or, en fait, elle a compris au moment où elles ont été dénoncées, arrêtées, qu'effectivement, ça faisait 4 ans que les Allemands cherchaient l'origine de cette voix du soldat sans nom, mais ils cherchaient vraiment dans leur rang. Et comme l'allemand de Suzanne était extrêmement sophistiqué, ils cherchaient parmi les officiers qui était responsable. Donc en fait, à aucun moment, et c'est là où on voit tout le génie et toute la qualité en fait de leur résistance, c'est-à-dire qu'à aucun moment, les Allemands n'ont cherché les responsables, les auteurs de cette contre-propagande parmi les gens de Jersey. Et elles avaient aussi une couverture qui était absolument incroyable, et donc ça faisait partie de leur jeu de rôle en quelque sorte, c'est qu'elles se faisaient passer pour deux vieilles bourgeoises un peu excentriques. Qu'elles étaient, mais évidemment, elles ne sont pas que ça. Mais en fait, elles ont accentué ce rôle-là. Elles s'habillaient comme les gens de Jersey, avec un trench, avec des bottes, avec un fichu sur la tête, avec leur cabas à provisions. Sauf qu'effectivement, elles n'avaient pas de provisions dans leur cabas, mais elles avaient leur photomontage, elles avaient leur tract, elles avaient les petits bouts de bois sur lesquels était écrit leur slogan. Elles avaient les sous, effectivement, enfin des pièces, pardon, avec des slogans dessus qu'elles ont été maîtres dans le casino où les Allemands allaient s'amuser pour que tout ça se distribue, voilà. Et donc, elles avaient cette clandestinité En fait, je trouve ça assez amusant parce que leur clandestinité a été garantie par le fait qu'elles soient un peu déjà à la marge, en fait. Et qu'à aucun moment, les Allemands auraient pu imaginer, c'est ce que dit l'autre, qui aurait pu croire à une pareille témérité. Elles habitaient en face de l'hôtel où étaient logés les officiers allemands. Et quand on va sur l'île de Jersey, on se rend compte, parce que leur maison existe toujours, l'hôtel existe toujours, que c'est la rue en face, et c'est une petite rue, quoi. Donc vraiment avec l'hôtel qui surplombait leur maison. Et c'est incroyable d'imaginer effectivement que leur couverture de ces deux sœurs un peu vieilles, un peu excentriques, qui jardinaient, qui était un peu à part dans l'île et fonctionnait au point que les Allemands refusent de croire que ce soit elles, parce qu'elles ont été dénoncées et que quand les Allemands perquisitionnent en fait dans leur maison, ils trouvent tout de suite la valise avec les tracts, avec la machine à écrire, etc. Enfin, ils trouvent très rapidement. Et ils ont du mal à y croire. Et en fait, il y a des mois et des mois d'interrogatoire, alors que Claude Cain et Suzanne Malherbe leur disent tout de suite « Non, non, mais c'est nous, fusillez-nous », parce qu'elles avaient très peur de la déportation. Mais en tout cas, elles avaient une fierté à revendiquer leur acte, leur responsabilité. Et que les Allemands ont eu un mal fou à imaginer qu'ils s'étaient fait flouer pendant 4 ans par ces deux vieilles. Et je dis vieilles exprès, parce que ça faisait partie de leur personnage, en fait.
C'est quand même l'art de la clandestinité, mais à son summum. Parce que ces deux femmes qui se font passer pour sœurs alors qu'elles sont en couple, qui ressemblent à des habitantes de Jersey alors qu'elles sont françaises, et qui vraiment dissimulent jusqu'au bout aussi le fait qu'elles écoutent la radio, la BBC, ce qui est interdit, qu'elles sont artistes, ce qui est interdit, qu'elles prennent des photographies, ce qui est interdit. Et on se dit aussi que tout ce talent et ce jeu, il y a quelque chose aussi de ludique, vient aussi peut-être du fait qu'elles sont artistes et que le surréalisme, c'est l'art du détournement, du photomontage, de repenser le monde, de reconfigurer le monde, et l'art de se cacher aussi. C'est sans doute ça leur force.
Oui, tout à fait. C'est vrai que leur résistance, en fait, est vraiment le prolongement naturel de leur création surréaliste, en fait, de cette sensibilité surréaliste, puisque ça part, en fait, d'une utopie. Donc, l'utopie étant, dans ce cas-là, en fait, d'imaginer un monde où les soldats déposent les armes par envie de solidarité. Et qu'en fait, elles vont créer la réalité qui va permettre cette utopie. Donc, elles vont créer une espèce de surréalité en imaginant, en fait, que ce soldat existe, qui s'appelle le soldat sans nom, qu'il commence à avoir des collègues. Donc, en fait, ça devient le soldat sans nom et ses camarades. Donc, en fait, la réalité prend forme et elle crée effectivement cette surréalité qui était comment l'imaginaire, comment la poésie, qui est propre au surréalisme aussi, peut transformer la réalité. Et Breton écrivait en 1932 que le poète à venir, c'est celui qui réconcilie, en fait, le divorce entre l'action et le rêve. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que Claude Cain rêve d'une résistance qui est impossible. Comment ? Enfin, c'est vrai que sur le papier, quand on se dit, mais voilà, son envie, c'était de convaincre les soldats d'arrêter de se battre, on se dit, bah, c'est impossible, quoi. Enfin, et qu'en fait, elle part effectivement de ce rêve et elle le transforme en action et les faits lui donnent raison à la fin de la guerre.
Alors on va continuer de parler avec vous, Emmanuel Hutin, de ce grand roman de la résistance, mais vraiment de façon très large, Les Francs-Tireuses. On va faire une pause musicale. Il se trouve qu'en effet, elles ont un piano, elles jouent du piano, ou tout au début de l'occupation, elles peuvent écouter aussi de la musique. Vous citez ici Eric Satie, vous citez également Beethoven. Est-ce qu'il y a un morceau que vous aimeriez qu'on écoute maintenant pour vraiment être avec vos deux héroïnes?
Oui, je pense que ce serait joli d'écouter effectivement Eric Satie, parce qu'il y a quelque chose de très mélancolique, en tout cas, moi, de ce que je ressens dans la musique d'Eric Satie. Et ce que j'ai voulu retranscrire aussi dans Les Francs-Tireuses, c'est le poids du quotidien. Le poids du quotidien dans une île en guerre, dans ce huis clos à la fois physique, mental, et le découragement que ça peut représenter. Et il y avait des jours sans. Et je pense que la musique faisait aussi écho à ça. C'est pour ça qu'elle parlait de Satie. Et que malgré tout, malgré ces jours sans, l'action continue. Et ça, je trouve ça beau. Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui d'Emmanuel Hutin qui a publié ce roman Les Francs-Tireuses aux éditions Anne Carrière, dont on a parlé tout au long de cette première partie et qui raconte l'épopée de deux femmes qui, pendant 4 ans d'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale sur l'île de Jersey, ont des actes de résistance vraiment fascinants et dont on va voir qu'ils n'ont pas été inutiles, loin de là. Un roman, mais en même temps inspiré de la réalité, comme je le disais. Mais comment est-ce que vous avez documenté ce livre, Emmanuel Hutin ? Parce que ici, c'est en effet le quotidien, la collaboration éventuellement entre les habitants de Jersey et les Allemands, mais c'est la faim qu'on voit monter, où d'un seul coup, il n'y a plus rien à manger, on ne peut même plus boire de thé, on ne peut plus fumer, les animaux domestiques disparaissent. Il y a aussi les prisonniers de guerre qui arrivent de l'étranger et qui, eux aussi, sont dans un état terrible. Il y a aussi les scènes de déportation, puisque un décret demande à tous les habitants de l'île qui ne sont pas nés sur l'île de partir et on ne sait pas où. Il y a vraiment une matière historique très forte. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Et est-ce que vous vous êtes inspiré aussi peut-être des textes de Claude Cahun ?
Oui, ma principale source, enfin ma toute première source en tout cas, ça a été les écrits de Claude Cahun qui ont été rassemblés par François Leperlier qui est son biographe et grâce à qui on connaît l'œuvre et la vie de Claude Cahun. Juste pour préciser dans quel contexte elle a elle-même a écrit, en fait elles ont été toutes les deux donc condamnées à mort avec Suzanne. Je ne divulgue rien de la fin du livre puisque ça je le dis dès le début, mais elles ont survécu en fait malgré cette condamnation à mort, mais elles sont sorties très très affaiblies des 9 mois en prison, notamment Claude qui avait déjà une santé fragile, et donc elle a eu des velléités en fait de raconter cette histoire. Elle l'a fait à travers des lettres, elle l'a fait à travers des fragments de textes, et donc toute cette résistance est un petit peu éparpillée dans les textes de Claude Cahun. Et donc voilà, mon travail ça a été essayer de rassembler tout ça. Il y a aussi la mémoire qui joue, où, par exemple elle dit des dates différentes pour un même événement, donc c'est intéressant aussi d'imaginer qu'elle-même peut-être a introduit un petit peu de fiction. Est-ce que ce souvenir, ce n'est pas de toute façon réintroduire un petit peu de fiction aussi ? Mais malgré tout, ça a été ma première base et mon but, c'était d'être le plus fidèle possible à ces actions. Donc, même si Les Francs-Tireuses, c'est un roman, j'ai été voilà, extrêmement fidèle et leur résistance est purement leur résistance. C'est-à-dire, je n'ai rien inventé et d'ailleurs, c'était beaucoup trop extravagant et courageux pour que je puisse moins inventer autre chose. Donc ça, ça a été vraiment la première source. Et la deuxième source a été les archives de Jersey, où j'ai été avec ma fille, qui était entre la première et la terminale sur les vacances, et en lui disant, tu vas voir, ça va être super intéressant, c'est ton programme d'histoire. Et effectivement, c'était assez passionnant de se pencher dans ces archives, puisqu'il y a une matière que on a toutes les deux trouvé passionnantes, qui sont des scrapbooks. Et en fait, les scrapbooks, c'est quelque chose qui se fait plus trop aujourd'hui, en tout cas sous une forme différente, mais où les gens à l'époque en fait découpaient des articles de la presse qui venaient coller dans des registres utilisés pour autre chose. Et donc, vous avez des scrapbooks faits par un médecin, faits par une femme au foyer, faits par des personnalités très différentes. Et donc, c'est une vision très subjective de leur quotidien, puisque eux-mêmes sélectionnaient ce qui faisait sens pour eux. Mais tout d'un coup, c'est une plongée, et effectivement, dans ce qu'on peut imaginer être cette vie sur cette île, coupée du monde, avec cette densité hyper forte d'Allemands, avec une relation qui est plutôt cordiale au début, puis qui devient extrêmement dure avec les Allemands à la fin, au fur et à mesure où le temps passe. Et dans les scrapbooks, beaucoup ont collé des petites annonces. Et alors, les petites annonces, c'est extraordinaire parce qu'à Jersey, on dit qu'il y a beaucoup de rumeurs, de ragots, en tout cas, que c'était un peu le sport national et que les Allemands en étaient même surpris, en fait, à quel point voilà, les ragots circulaient. Et donc, il y a des petites annonces où il y en a un qui dit « je vais très bien et ma femme aussi ». Et s'il y en a un qui s'avise de dire que ma femme est libre, est disponible, je lui botterai les fesses ou des choses comme ça. Donc là, il y a ce type d'annonces qui sont un peu anecdotiques. Et puis, il y a d'autres annonces extrêmement révélatrices, comme celle qui propose d'échanger un piano à queue contre un bout de savon. Et en fait, il suffit en deux lignes d'annonce de comprendre la précarité, en fait. Enfin, c'est presque une leçon d'écriture, en fait. De se dire qu'en une phrase, en cet échange piano à queue contre bout de savon, on comprend tout, en fait. Et voilà. Et cette matière a été effectivement très riche pour essayer de comprendre dans quoi elle vivait, parce que j'avais pas envie d'en faire des héroïnes qui complètement déconnectées du quotidien. En fait, l'engagement, qui est l'engagement pour tout le monde aujourd'hui, c'est effectivement comment on fait avec le quotidien et comment on trouve l'énergie et malgré les difficultés, malgré tout ce qui vient s'opposer à l'action, en fait. Et pour moi, c'était très important de rendre compte de ce qu'elle vivait, voilà. De l'incarner, en fait, qu'on soit aussi dans leur corps, dans leur vie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont été sensibles, je crois, à la lecture, au fait qu'on se sentait très proche d'elles, et j'en suis très, très heureuse.
Donc, vous êtes allée sur l'île de Jersey. Quelles traces elles ont laissées là-bas ?
Alors, leur maison existe toujours. C'est une maison qui est occupée par des particuliers, donc qui se visitent pas. À l'extérieur, il y a une plaque qui stipule que Claude Quin, Suzanne Malherbe n'est pas mentionnée bizarrement, mais qui dit que l'artiste Claude Quin a vécu dans cette maison. La trace surtout, c'est qu'elles sont enterrées à Jersey. Elles sont enterrées dans le petit cimetière qui est juste à côté de leur maison, qui est le cimetière où elles-mêmes ont installé des croix avec des slogans anti-nazis, et qui est un épisode assez drôle parce qu'en fait, c'est tellement bien fait qu'effectivement, les Allemands ne savent pas d'où ça vient. Est-ce que c'est les SS ? Est-ce que ça vient directement de Berlin ? Est-ce que, voilà, entre les différentes administrations sur l'île, et qu'elles avaient posé des croix avec ce slogan « À bas la guerre », mais parce qu'elles n'avaient pas eu le temps de les planter, elles faisaient ça la nuit, évidemment, avec le poids de la croix en bois, etc., et qu'elles voient de leur maison un matin... que les soldats eux-mêmes ont replanté la croix dans la tombe et se recueillent autour des tombes avec leur croix à elles plantée. Et donc on voit bien toute la subtilité de leur, et l'absurdité en même temps de la situation. Donc leur trace, c'est cette tombe où elles sont toutes les deux enterrées, où il y a une étoile de David sous le nom de Claude. Claude qui n'était pas juif selon la religion juive, parce que sa mère ne l'était pas, mais qui était très proche de sa judéité. Et donc voilà, c'est principalement ces traces-là. Après, les archives de Jersey possèdent aussi le patrimoine de Claude Quin, donc avec beaucoup de photos. En fait, le patrimoine de Claude Quin est vraiment réparti entre Nantes et Jersey, où voilà, on peut voir les tirages de Claude. Il y a des tracts qui reste, et là c'était assez extraordinaire de prendre un tract dans la main. Il y en a certains qui ont été écrits, alors normalement elle les tapait à la machine à écrire, mais certains textes qu'elle a a priori soit écrits en prison, soit réécrits à la fin de la guerre, donc écrits au crayon à papier. Et moi, ça a été une émotion hyper forte, en fait, d'avoir ce tract avec ce papier d'une finesse incroyable, et avec les mots de Claude écrit, peut-être parce que je suis déshabituée à voir du texte manuscrit aujourd'hui, mais tout d'un coup, avoir cette espèce de trace qui traversait 80 ans d'histoire pour passer de ses mains aux miennes, je trouvais ça très, très émouvant. Donc, Jersey, c'est un beau lieu pour se plonger dans l'univers de Claude Quin.
Ce que dit votre roman aussi, Emmanuel Lutin, et c'est pour ça aussi qu'il s'intitule « Les Francs tireuses », c'est au-delà de cette expérience singulière de ces deux femmes, c'est toute l'action des femmes pendant la guerre, pas seulement à Jersey, et une action qui a souvent été invisibilisée. La preuve, c'est que Claude Quin et Suzanne Malherbe, après tout ce qu'elles ont fait, elles ne sont pas dans la mémoire immédiate des nouvelles générations. Donc c'est ça aussi que vous vouliez souligner, j'imagine.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce terme des francs-tireuses, il est venu aussi des écrits de Claude Quin, puisque au moment du procès, le juge allemand leur dit « Vous êtes des francs-tireurs ». Alors, elle l'écrit au masculin. « Vous êtes des francs-tireurs, mais vos armes à vous sont plus dangereuses parce que ce sont des armes spirituelles. » Et il me semblait que cette idée, en fait, de francs-tireuses, donc j'avais à cœur, effectivement, de le féminiser, mais de francs-tireuses d'armes spirituelles était un résumé puissant de leurs actions est extrêmement contemporain. Et c'est vrai que pour élargir à la résistance de manière générale, moi j'ai été saisie de voir qu'on considère qu'un résistant sur cinq en France était une femme. Et quand on regarde en fait à la fin de la guerre les récompenses qui ont été données avec les différents degrés de récompense, on tombe à 0,5% sur la récompense la plus haute, enfin la médaille la plus haute, à 8% dans d'autres situations. Donc ça reste extrêmement minime et que, a priori, ce qui serait passé, c'est que les femmes n'ont jamais revendiqué leurs actions, qu'elles l'ont fait avec beaucoup de bon sens. On dit que ce sont les premières aussi, c'était une résistance plus spontanée, que les femmes ont résisté en premier en quelque sorte, et que pour elles, c'était une espèce de bon sens et qu'elles ont fait ce qu'elles avaient à faire et que donc, à la fin de la guerre, elles sont reparties à leur tâche, quoi. Et donc, il n'y a pas du tout eu, effectivement, de mise en lumière de leurs actions. Et en découvrant, en fait, ces chiffres vertigineux, je me suis dit, mais en fait, si toutes ces femmes, voilà, si ces 20% de résistantes avaient été mises en lumière, est-ce que le rôle politique des femmes dans la société française n'aurait pas été radicalement différent ? Et j'avais envie aussi de pouvoir réparer, effectivement, le silence dans lequel Claude Quin et Suzanne Malherbe sont... On finit, elles sortent de la prison, comme j'ai dit tout à l'heure, extrêmement affaiblies physiquement. Leur maison a été dépouillée, aussi bien par les Allemands que par les Jerseyais. Elles savent que les choses sont encore sur l'île dans certaines maisons jerseyaises, mais rien n'est fait par le gouvernement pour les aider à récupérer leurs affaires, donc toute leur collection d'art, tous leurs meubles, même les filants en cuivre, en fait, de leur maison. Enfin, donc, elles se retrouvent dans un dénuement assez important. Et à Jersey, comme effectivement, il y a cette espèce de collaboration, de zone grise, il n'y a pas le procès, comme en France, de la collaboration. Il n'y a pas la montée en héroïsme des résistants. Et grosso modo, tout est mis sous le tapis et on repart comme si de rien n'était. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Et les premières analyses, en tout cas, de moi, ce que j'ai pu voir sur... l'histoire de Jersey pendant la Seconde Guerre mondiale date des années 80. Donc comme s'il avait fallu attendre une génération pour pouvoir revenir en fait sur ce qui s'était passé à Jersey. Et c'est à ce moment-là qu'on prend connaissance des différentes résistances qu'il y a eu et dans une moindre mesure de celle de Claude et Suzanne. Mais en tout cas, en France, les spécialistes de la résistance eux-mêmes ne connaissaient pas l'histoire de Claude et Suzanne, ce qui est absolument dingue.
Et la force de leur histoire et de votre roman aussi, Emmanuel Hutin, c'est de dire l'importance du collectif. Parce que effectivement, dans cette situation de guerre, chacun essaye de sauver sa peau pour commencer. Et en l'occurrence, au début, elles font des actions au nom du soldat sans nom. Et puis ça devient soldat avec un S sans nom et leurs camarades. Et on voit bien que finalement, c'est petits maillons qui finalement vont faire une grande chaîne et qu'il faut s'appuyer sur le collectif. Je trouve que 80 ans après, et surtout dans le monde dans lequel nous vivons, c'est une leçon extraordinaire. Et puis aussi la puissance de l'amour, qu'il faut donner de l'amour et non pas de la haine, et qu'à un moment, l'amour reviendra. Je trouve que c'est quand même magnifique comme message.
Oui, vous pointez du doigt, moi, ce qui m'a donné envie d'écrire aussi ce livre, parce que quand j'ai découvert leur histoire, leurs actions, tout d'un coup, j'ai eu l'impression de voir une manière d'être au monde aujourd'hui et de se dire qu'on pouvait être très lucide sur l'être humain, sur toutes ces limites, sur toutes ces noirceurs qu'on a en chacun. Pour le coup, je pointe personne du doigt, mais on a tous notre part d'obscurité, et de pouvoir prendre conscience à la fois de ça et en même temps de vouloir autre chose, de rêver autre chose, de croire en cet amour. Claude Quin, elle a cette phrase magnifique où elle dit sans cet amour qui n'a ni religion ni frontières, je serais morte de haine. Et aujourd'hui, on peut mourir de haine, mais plusieurs fois par jour, en fait. Et donc se raccrocher en fait à cet amour-là et se dire que oui, c'est une utopie, mais ça reste la seule direction possible. Et qu'en fait, elle est possible par rapport à une certaine vision du monde, en fait, par rapport à des valeurs morales qu'on pourrait se donner à soi-même, mais aussi parce que c'est une manière d'aller vers sa propre liberté, en fait, et cheminer vers soi. En fait, moi, j'ai l'impression que l'exemple de Claude Quin, c'est de dire qu'en cheminant vers soi, on chemine aussi vers les autres. Et par rapport, effectivement, à cette société où on parle toujours de l'individualisme de la société actuelle en le pointant du doigt, c'est aussi de se dire, finalement, si je suis très connectée à ce qui est important pour moi, à ces valeurs de liberté et d'amour qui me semblent quand même universelles. Mais si j'arrive à me reconnecter à ça, et que donc j'ai envie d'agir par rapport à ça, alors j'agis pour le collectif. Et donc c'est une espèce de passerelle entre ce qui nous crée de la joie profonde, ce qui crée du sens en fait à nos existences, et ce qui contribue au collectif, ce qui contribue à la société. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Moi aussi. Merci beaucoup, Emmanuel Hutin, de nous avoir parlé de ce nouveau roman « Les Francs tireuses », qui est un portrait magnifique de deux femmes, portrait d'une génération aussi, portrait d'une époque, et puis un livre qui, 80 ans après, a encore beaucoup, beaucoup de choses à nous transmettre. Merci encore. « Les Francs tireuses », donc d'Emmanuel Hutin, un roman qui est apparu aux éditions Anne Carrière.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.